pour cette troisième partie, Alain Perea, on va un petit peu essayer de sonder vos pensées, d'apprendre peut-être aussi un certain nombre de choses sur l'avenir et sur les projections, pourquoi pas. Mais au bout de 4 ans, alors vous disiez, oui, il faut quand même faire des bilans, même s'il reste encore du temps. Mais le premier bilan que j'ai envie de vous demander, c'est pour vous, 4 ans, 4 ans et demi plus tard, qu'est-ce que vous ressentez sur ce que vous avez appris, sur ce que vous avez fait, et sur un éventuel indice de satisfaction de toutes ces œuvres?
C'est une question très difficile. C'est une question très difficile et j'ai beaucoup appris sur pourquoi certaines choses ne marchent pas. Et les combats que j'ai menés, c'est d'essayer de déverrouiller un certain nombre de choses. Voilà. Donc, il y a notamment, je le disais lors de ma première cérémonie de vœux, j'ai l'impression des fois qu'à Paris, on ne vit pas dans la même France. Alors c'est quelque chose que les auditeurs n'apprendront pas, puisqu'on l'entend souvent et autres, mais franchement, c'est difficile à vivre. C'est difficile à vivre. Quand vous arrivez avec vos tripes, avec vos 50 ans, alors au début du mandat, j'en avais 4 de moins, mais avec votre expérience, en disant, mais moi, ma France, celle que je vis au quotidien, c'est ça. Et qu'en face de vous, vous avez 3 personnes qui ne sont jamais venues dans l'Aude et qui vous disent non, c'est pas ça. Voilà. Et donc, en plus, moi, avec mon caractère, quoi, mais ça vous révolte. Ça vous révolte. Et, vous savez, moi, je leur ai souvent dit à Paris que la question d'un héritage politique, c'est bien sûr ce que l'on a fait. Notre bilan, telle loi, tel chiffre. Mais l'héritage, c'est aussi comment on a réussi à redonner confiance aux habitants de ce pays. Voilà, et certaines décisions qui sont prises ne vont pas dans le bon sens. Et bon, voilà, c'est des choses comme ça. Voilà. Après, je me sens en super forme. On approche de nouvelles échéances.
Ça vous motive ?
Ça me motive. Et j'ai entendu cette expression-là ce week-end et j'ai envie de la reprendre à mon compte parce qu'elle m'a fait beaucoup rire et en plus elle était... voilà. C'est qu'en fait, j'ai l'impression d'être revenu 5 ans en arrière quand on se lançait dans la campagne.
Ah, donc c'est une cure de jouvence.
C'est une cure de jouvence. J'ai l'impression d'avoir 5 ans de moins. Et donc, je vais bientôt demander à prendre 5 ans de plus.
Ah, c'est une belle formule, ça. Effectivement, voilà. Vous la ressortirez, j'imagine, en campagne.
Tout à fait.
Alors, justement, vous l'avez un petit peu évoqué dans une première partie, Alain Perea. Bon, Monsieur Macron... Il n'est pas là, je ne peux pas lui poser la question, mais on sait pertinemment, à peu près tout le monde, que, sauf événement extraordinaire, il sera partant de nouveau, lui aussi, sur ce mandat.
Alors, vous comprenez bien qu'il n'est pas venu me le dire à moi, personnellement. Par contre, on le rencontre régulièrement. Alors, soit en grand comité, soit en petit comité. Son leitmotiv, j'ai envie de dire, en ce moment, c'est notre bilan. Soyons fiers de notre bilan, et moi je vous remercie de m'avoir posé des questions sur ce bilan, qu'il soit personnel ou national, parce que on peut être fiers de ce que nous avons fait, on peut être fiers de ce que nous avons pu... voilà. Et puis après, viendra le temps pour le président de la République de devenir candidat, et viendra le temps, s'il le décide, de se représenter. Mais une chose est sûre, c'est que notre bilan, il nous appartient. Il n'a pas été facile à obtenir. Des combats, des nuits dans l'hémicycle, des manifestations à affronter, des crises Covid et autres. Mais notre bilan, il est là. Les chiffres le prouvent. Et d'ailleurs, on le voit bien, l'opposition, les candidats qui émergent déjà... ont du mal à attaquer sur le bilan. Ils attaquent sur de nouveaux sujets, ils essayent de faire les questions de l'immigration comme si c'était des sujets majeurs, mais ils n'apportent aucune réponse. Et donc on voit bien que notre bilan, il est là et il est bon, quoi.
Alors, on peut commencer à évoquer un certain nombre de choses. On a évoqué tout à l'heure, d'ailleurs, la retraite, la réforme des retraites qui n'a pas pu être faite. Il y a sans doute d'autres points comme ça qui n'ont pas été faits, qui resteront à faire, soit qui sont apparus comme plus cruciaux récemment. Bon, alors la retraite, c'est pas la peine d'y revenir. L'autorité de l'État, on a l'impression assez souvent que... on pourrait prendre des exemples concrets, peut-être le ferez-vous, Alain Perea, que l'État, avec son autorité et sa force, parce que finalement l'autorité repose toujours sur la force, s'étiole énormément depuis, alors je dirais pas depuis l'arrivée de Macron, c'est beaucoup plus ancien que ça, mais ça persiste.
Vous avez raison, et deux pistes de faire au feu ou deux éléments de réponse. Le premier, c'est cette ambiguïté que nous avons tous, moi le premier, sur jusqu'où on a envie d'aller et jusqu'où on est capable d'aller. Récemment, j'ai été saisi d'un dossier d'une famille qui perturbe toute la vie d'une petite résidence. Il y a des enfants, voilà. Bon, moi, je suis pas allé, donc je prends pas parti. Mais admettons que les plaignants aient raison. On fait quoi avec cette famille? On y va, on les sort avec des baïonnettes. Est-ce que les Français sont prêts à ce qu'on sorte des gens de chez eux avec un pistolet sur la tempe en leur disant « Vous allez aller ailleurs ?» Et puis, une fois qu'on les a sortis, on en fait quoi? Et donc, il y a cette question de, on est prêt à aller jusqu'à où? Autre exemple, pendant la crise des Gilets jaunes, on voit bien qu'il y a eu une ambiguïté permanente entre est-ce que les policiers en font trop ou les policiers n'en font pas assez? Est-ce que les flashballs c'est un bon moyen ou c'est pas un bon moyen? Alors moi, je rencontrais des gens qui me disaient, ouais, allez-y, tapez dessus, tapez sur les Gilets jaunes. Mais j'ai rencontré beaucoup d'autres qui me disaient, non, mais faites attention, voilà. Et donc, on voit bien qu'il y a cette ambiguïté. Donc là, le peuple français devra un jour se positionner clairement sur ça. Et devra un jour clairement, alors bien sûr, on le fera pas d'une seule voix, parce que c'est la beauté de notre pays, ça s'appelle aussi la démocratie. Mais à un moment donné, il faudra quand même qu'on prenne des trucs. Et puis la deuxième chose, un sujet sur lequel moi, je vais pas faire l'homme, mais j'y tiens, c'est qu'en France, on a l'amende et on a la prison. Entre les deux, toutes les peines dites alternatives, elles existent, mais elles ne sont pas assez développées. Et moi, je crois qu'on doit travailler sur ce sujet-là. On doit évoluer. Envoyer des gens en prison, ce n'est pas forcément la solution. Il y a sûrement d'autres choses à faire. Et ça ouvrirait des champs de possibles pour tout un tas de personnes qui sèment du désordre, sèment du trouble. Et aujourd'hui, envoyer les gens en prison, c'est pas forcément la bonne solution. Voilà, donc c'est un peu rapide hein, pour développer ça à votre micro, mais voilà un petit peu comment je vois les choses.
Et alors, dernière question, c'est de la prospective, c'est de la supposition, de l'hypothèse peut-être, mais je vous la pose. Jusqu'ici, depuis qu'on élit le président pour 5 ans et la Chambre des députés tout de suite après, on n'a pas eu de deuxième mandat de président. Sarkozy, puis Hollande, ils ont été battus à chaque fois. Ouais. La question que je me pose, c'est... C'est bien connu qu'un président, comme un candidat, il est élu, il a envie d'être réélu s'il l'amène à une certaine prudence dans ses décisions. Lorsqu'il est élu dans un deuxième mandat, où il sait qu'il ne sera pas éligible une fois de plus, est-ce que ça ouvre pas la porte à certaines audaces qui seraient nouvelles, peut-être, et qui permettraient d'aller parfois peut-être plus au fond? Vous évoquiez la position des Français, il faudrait savoir ce qu'on veut et ce qu'on veut pas, par exemple.
Alors d'abord, je suis intimement convaincu, je vais vous dire pourquoi, je suis intimement convaincu que si Emmanuel Macron est réélu, ça va se passer exactement comme vous venez de le dire. Alors bien sûr, dans la concertation, bien sûr dans l'écoute et bien sûr dans l'intérêt de la France, mais ça va se passer comme vous venez de le dire. Pourquoi ? Ben, tout simplement parce que nous sommes habitués dans ce pays, que ce soit au niveau national, mais même au niveau local. Lorsque un candidat qui est dans un parti traditionnel, qu'il soit le PS ou les Républicains, même s'il sait qu'il ne se représente pas, il ne veut pas que sa région, son département, sa commune passe à une couleur politique différente. Et donc, le président de région PS, même s'il sait qu'il ne va pas se représenter, il va calculer son mandat sans audace, avec le seul objectif, c'est de préserver l'intérêt du parti pour la prochaine élection. Emmanuel Macron, vous m'avez posé la question en début d'interview, Emmanuel Macron l'a toujours dit, En Marche ne sera pas un mouvement politique comme les autres. La preuve, il est déjà passé à la trappe et on est majorité présidentielle. Et dans ce prochain mandat, on va aborder les sujets avec majorité présidentielle pour appliquer un programme. Au bout des 5 ans, c'est-à-dire donc en 2027, si je compte bien, eh bien, Emmanuel Macron ne pourra pas se représenter et il sera bien temps de regarder qui prendra la suite. Est-ce qu'on reviendra sur un républicain, un socialiste ou quelqu'un qui sera issu de notre mouvement? Et donc, Il est important de vraiment, quand on va aller bientôt rentrer en campagne et puis bientôt aller aux urnes pour ces élections présidentielles, de se poser la question, est-ce que on veut vraiment que notre pays rentre dans une dernière phase de réforme pour affronter les défis à venir, et notamment, on n'en a pas parlé, mais les défis climatiques,
Oui, entre
qui sont
autres.
des enjeux importants, ou est-ce qu'on va vouloir retomber sur une alternance comme par le passé? Moi, j'ai eu des contacts avec Xavier Bertrand, je suis affligé de voir son programme. On va arrêter tel truc, on va arrêter tel truc. En fait, en gros, on va faire rentrer la France dans une phase d'immobilisme affligeant.
On continue
Voilà.
à ménager la chèvre et le
C'est
chou, comme on
ça,
dit,
exactement.
peut-être. C'est
Quand je vois,
votre sentiment
bien sûr,
là-dessus?
quand je vois quand je vois Anne Hidalgo à Paris, mais enfin, moi j'invite les gens à aller voir à Paris ce que fait Anne Hidalgo, quoi. Enfin, c'est pas possible. Voilà, donc on est sur une approche très urbaine, très théorique. Je ne vais pas tomber dans le cliché du bobo parisien, parce que c'est trop cliché, mais il n'y a aucun souffle nouveau. Voilà, donc allons jusqu'au bout, et en tout cas, moi, c'est ce que je défendrai dans les semaines à venir.
Voilà. Mais écoutez, merci Alain Perea. Donc, on voit de toute façon que vous continuez dans l'action et vous avez bien l'intention de continuer un certain temps encore. Merci d'être venu en témoigner.
Merci.
Les prochains invités sur ces Radio Barques, eh bien, seront respectivement Christian Lapalu, Hélène Sandranier, Gérard Forcada, Didier Collorgnoux. Il y en a d'autres après, mais je m'arrête là pour le moment pour laisser un petit peu de suspense. Merci encore,
Merci beaucoup.
monsieur le député.
Merci beaucoup.